Valérie.
Anna. Charline.
Chapitre 18. Valérie. Depuis que j'ai vu ce mot sur la devanture de la pâtisserie de Charline, je n'arrête pas de penser à elle. Même si nous nous connaissons depuis peu, je sais qu'elle est passionnée par son métier et qu'elle adore confectionner des pâtisseries pour ses clients. Cette absence signifie forcément qu'il lui arrivait quelque chose de grave. Je n'ai pas son numéro pour prendre de ses nouvelles. De toute façon, mon portable est resté éteint depuis mon départ. Je n'ai pas eu le courage de le rallumer, par peur de découvrir les appels en absence et les messages pleins d'incompréhension et d'amertume laissés sur mon répondeur. J'ai donc décidé d'aller chez elle, de frapper à sa porte et de lui demander ce qui n'allait pas. Même si je ne peux sans doute rien faire pour l'aider, j'aimerais au moins lui montrer qu'elle n'est pas seule. J'ai profité d'une matinée libre pour lui rendre visite. J'ai proposé à Anna de venir avec moi, mais elle n'était pas très en forme aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où, sans que l'on sache pourquoi, on se sent moins bien. Il paraît que c'est normal et qu'il faut parfois accepter de faire un pas en arrière pour pouvoir prendre une nouvelle impulsion, parce qu'on ne recule jamais aussi loin que son point de départ. Catherine et ses drôles d'images. Je n'ai pas insisté pour qu'Anna m'accompagne. Peut-être que j'aurais dû. Charline n'a pas ouvert à ma première tentative, alors je frappe de nouveau. « Charline, c'est moi, Valérie. Je m'inquiète. » Et j'en suis la première surprise tant j'avais le sentiment d'avoir anesthésié mes émotions. Elle entr'ouvre la porte et ses yeux rougis ne font que confirmer ce à quoi je m'attendais. C'est grave. « C'est gentil d'être venue, Valérie, mais... » Sans la laisser finir, je sors une petite cuillère de ma poche et la lui tends. « Je me suis dit que tu en manquais peut-être. » Elle me sourit. « C'est la chose la plus gentille qu'on ait faite pour moi ces dernières 48 heures. Catherine serait fière de toi. « Entre, » me dit-elle après quelques instants d'hésitation. « Une leucémie ? Tu veux dire... »«
Oui, j'ai un cancer. » À lundi, tu te rends chez ton médecin parce que tu es un peu fatiguée, elle te prescrit une prise de sang, tu penses t'en sortir avec une petite cure de vitamine et bam. 3 jours et un myélogramme plus tard, tu te retrouves avec une leucémie aiguë. Pas sûr que la cure de vitamine serve à grand-chose, du coup.
Une seule petite cuillère, ça ne va pas suffire, là. Je suis désolée. Cette réplique m'apparaît soudain grotesque. Et pour une raison que je ne m'explique pas, je ne peux réprimer le rire qui monte.
Pardon, je ne sais pas pourquoi je rigole. Je te jure que je ne trouve pas ça drôle.
Tentais-je de me justifier alors que je suis gagnée par un fou rire visiblement communicatif, puisque Charline est tout aussi hilar que moi. Pendant de longues minutes, nous rions toutes les deux à en avoir mal aux côtes, essuyant tant bien que mal les larmes qui roulent sur nos joues. Ce sont les nerfs qui lâchent, aurait sûrement expliqué Catherine si elle avait été présente.
Ils t'ont parlé de la suite? D'un traitement?
Je lui demande une fois que nous avons toutes les deux repris notre souffle et retrouvé un semblant de calme.
Oui, une chimiothérapie et une greffe de moelle osseuse. C'est la stratégie thérapeutique classique. Comme je suis fille unique, ils vont sans doute vouloir tester mes parents pour voir s'ils sont compatibles. Sauf qu'il est hors de question que je les prévienne. Je les connais. Ils interromperaient leur voyage dans la seconde, et ce tour du monde, c'est le rêve de toute une vie. Non, je ne peux pas leur faire ça. Tant pis, il va falloir trouver un autre donneur pour la greffe.
Au-delà du côté médical, tu te prives de leur soutien. J'ai plutôt l'impression que dans ce genre de situation, il est préférable d'être entouré, et même bien entouré, non?
Laisse-toi peut-être un temps de réflexion.
Ils pourront toujours reprendre leur tour du monde là où ils l'auront arrêté.
Non, je les connais. S'ils reviennent parce que je suis malade, jamais ils ne repartiront. Sans compter que mon père n'est plus tout jeune. Je sais que ça peut paraître stupide, mais je refuse de les prévenir. À vrai dire, même s'ils rappliquaient, je ne suis pas sûre d'être capable d'affronter tout ça. Je te mentirais si je te disais que je n'ai pas réfléchi à la possibilité de ne rien faire du tout.
Ne rien faire du tout?
Te laisser mourir, tu veux dire?
Oui. J'en ai assez d'espérer qu'après la pluie viendra le beau temps. Je finis par croire qu'il n'y aura jamais de lendemain ensoleillé. Juste une succession de jours pourris. Je suis tentée de lui rétorquer qu'elle est jeune, qu'elle a toute la vie devant elle, qu'elle ne peut pas baisser les bras. Mais je n'en fais rien. Je ne me sens pas la mieux placée pour ça. J'ai moi-même l'impression d'avoir fui mes problèmes.
Est-ce que vous croyez en Dieu, Catherine ?
Oui, je sais que vous allez me répondre qu'on n'est pas là pour parler de vous. Dis-je avant même qu'elle ait eu le temps d'ouvrir la bouche. Elle m'adresse un sourire complice. Jamais je n'aurais cru créer un lien aussi fort avec une thérapeute. J'apprécie énormément mes séances avec Catherine, que je vois à présent plus comme des conversations. Quand j'étais petite et que nous vivions, Sabine et moi, chez ma grand-mère, je me souviens qu'elle me faisait faire ma prière tous les soirs avant d'aller me coucher. Je devais me mettre à genoux au bord de mon lit, joindre les mains, fermer les yeux et adresser un mot gentil au petit Jésus. Je me demandais à quoi il pouvait bien ressembler. Dans ma tête, je l'imaginais comme un garçonnet en habit de berger. Un peu comme le gamin qui joue Marcel Pagnol dans La gloire de mon père. Vous vous souvenez de ce film? Quand je l'ai visionné pour la première fois, j'ai cru voir apparaître le petit Jésus de mon enfance. C'était très bizarre.
Votre grand-mère était très croyante?
Oui. Elle me parlait tout le temps de la Bible, qu'elle me racontait comme une histoire. Elle en avait une très vieille sur sa table de chevet dont elle lisait quelques pages chaque soir. Elle était en cuir rouge. Je me souviens qu'elle me laissait parfois l'ouvrir et choisir la page de sa lecture. Pour ma naissance, elle m'a acheté une médaille représentant la Vierge Marie à qui elle vouait une véritable adoration. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Sabine l'a sûrement vendue pour se payer un restaurant ou aller en boîte de nuit avec ses amis. Quand ma grand-mère est morte dans cet accident de voiture, je me souviens que j'étais très en colère contre le petit Jésus de ne pas l'avoir sauvé alors qu'elle l'aimait tant.
C'est la première fois que nous parlons de religion? C'est quelque chose qui compte pour vous?
Non, pas vraiment. Mais de temps en temps, je me demande comment certains peuvent continuer à croire en un Dieu qui laisse la vie s'acharner sur de belles personnes qui n'ont rien fait pour mériter ça. Bien sûr, je ne pense pas à moi en disant cela. Je voudrais lui parler de Charline, mais comme toutes les deux se connaissent, je ne sais pas si elle apprécierait que je révèle des informations sur sa maladie.
J'ai souvent entendu des croyants affirmer que Dieu ne nous inflige que ce que l'on est capable de supporter.
« C'est des conneries, tout ça !» je m'exclame. « Comment pourrait-il savoir ce que les uns et les autres sont aptes à supporter ?» Parce qu'à force de subir des épreuves, la seule chose dont les gens finissent par être capables, c'est de baisser les bras et d'abandonner la partie. S'il était aussi aimant et miséricordieux qu'on le prétend, il ne laisserait pas des malheurs nous frapper. Il s'interposerait et fera en sorte que des choses positives se produisent.
Peut-être qu'il le fait, mais que ce n'est pas évident à voir.
Cette conversation ne deviendrait-elle pas un peu trop théologique?
C'est vous qui avez lancé ce sujet, Valérie.
Je ne fais que vous suivre.
Heureusement que je ne suis pas au jardin des Cybèles pour traiter une addiction au sexe.
Qui sait ce que nous pourrions découvrir au cours de nos séances? Me répond-elle en m'adressant un clin d'œil qui nous fait rire.
Je retrouve Anna, assise dans le parc en train de peindre sur son grand carnet à spirale. C'est là qu'elle passe le plus clair de son temps, seule et perdue dans des vêtements trop grands pour elle. Je la rejoins parfois, et comme elle ne parle pas beaucoup, je me contente de la regarder appliquer les couleurs sur la toile, d'un geste délicat mais sûr. Des tournesols. Rien que des tournesols.
Tu as vraiment un don. J'aimerais savoir dessiner comme toi.
Quelqu'un t'a appris? Oui, ma mère. Elle dessinait des robes, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Elle voulait être styliste avant de devenir mère de famille nombreuse. Tu as combien de frères et sœurs?
5 en tout. J'ai 2 frères et 3 sœurs. Ça devait être animé chez toi.
Oui, il y avait toujours beaucoup de bruit.
Peut-être que ça aurait été plus facile si je n'avais pas été seule avec Sabine.
Sabine, c'est ta sœur?
Non, c'est ma mère. Elle n'aimait pas que je l'appelle maman, parce qu'elle trouvait que ça la vieillissait. Elle me disait qu'il fallait que je la voie comme une copine, quand elle invitait des amis à la maison, ce qui était assez rare. Elle me présentait comme sa nièce. Elle disait que j'étais en vacances et qu'elle m'accueillait chez elle pour quelques jours.
Anna m'écoute en silence, ses grands yeux bleus rivés sur moi.
Oh, je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça.
Ce n'est pas la première fois que je me fais cette réflexion. Anna parle peu, mais elle écoute. Pas d'une oreille distraite, non. Elle arrête ce qu'elle est en train de faire et vous accorde toute son attention, comme si elle ne voulait pas prendre le risque de manquer le moindre détail. « Au fait, je suis passée voir Charline, » dis-je pour changer de sujet. « Je voulais prendre de ses nouvelles. Son malaise de l'autre jour à la pâtisserie, ce n'était pas juste de la fatigue. Elle a eu une leucémie. Elle m'a donné l'autorisation de t'en parler.
Une leucémie, c'est une sorte de cancer?
Oui, un cancer du sang. Il va falloir qu'elle fasse une chimiothérapie et sans doute une greffe de moelle osseuse.
Parfois, on pourrait croire que la vie s'acharne sur certains.
C'est exactement ce que je disais tout à l'heure à Catherine. Je voudrais tellement pouvoir faire quelque chose, mais je me sens impuissante.
Il y a des moments où je voudrais tout quitter et partir dans un endroit où il n'y aurait pas de maladie, pas de gens malheureux et pas de bébés qui meurent trop tôt. Charline n'aurait pas de cancer, tu aurais tout un tiroir de petites cuillères et je pourrais tenir Suzanne dans mes bras.
C'est la phrase la plus longue prononcée par Anna depuis que je la connais. Et elle est d'une lucidité douloureuse.
« C'est ce qu'on va faire !»
m'écriai-je soudain. Anna me fixe interloquée.
« Bon, je ne connais pas d'endroit où il n'y a pas de maladie et tout le reste, mais on devrait partir quelques jours loin d'ici, loin de tout ça, dans une maison au bord de l'océan. Et tant pis si je ne sais pas nager. La mer, le bruit des vagues, rien de tel pour se ressourcer. Qu'est-ce que tu en dis ?»«
Je ne sais pas trop. Ça doit coûter cher, ce genre de maison, non ?»«
Ne t'inquiète pas pour ça. De l'argent, j'en ai, moi. » Grâce à toutes ces années pendant lesquelles j'ai travaillé sans compter et qui m'ont conduite ici, je suis certaine que ça me fera du bien de dépenser un peu de cet argent pour quelque chose de positif.
Je ne me suis pas sentie aussi enthousiaste depuis des semaines. Peut-être qu'après ça, je trouverai enfin le courage d'appeler mes filles et de leur demander pardon de ne pas avoir été à la hauteur.
Tu crois qu'ils nous laisseront ?
Nous sommes toutes les deux majeures et venues ici de notre plein gré. Pourquoi ne pourrait-on pas bénéficier d'une permission ?
Je m'occupe de nous obtenir ça.